je t'ai dit que ça faisait des bruits bizarres des fois.
Finaise, on va faire un podcast sur la bouilloire terrifiante. C'est la bouilloire qui bip toutes les 3 heures sans raison et qui des fois se met à bouillir de l'eau alors qu'il n'y a pas de bouillie, il n'y a pas d'eau dedans. Bon, je sais pas, ça va peut-être tourner en ça va peut-être tourner en rond au bout du 8e épisode, mais je vous jure, ça fout la pétoche. Hein.
Bienvenue dans Il faut qu'on parle, un podcast consacré aux conversations sur les séries et tout ce qu'elles nous inspirent. Puisque nous sommes aujourd'hui tout seuls, mon camarade Dominique Montet et moi, nous avons décidé de parler d'une de nos passions communes et on peut le dire adjacente à nos intérêts sériels, les podcasts. Comment on les a découverts, nos premiers amours, nos émissions cultes et toutes les raisons qui nous ont donné envie de faire les nôtres de podcast. Mais avant toute chose, laissez-moi souhaiter la bienvenue à Dominique. Bienvenue Dominique.
Bonjour. Ouais, donc on en arrive à ça en fait. Maintenant, il faut toujours que je fasse ton introduction, quoi.
Bah oui, c'est mieux. Okay.
Et avec Yaël, animatrice du podcast et amatrice de podcast.
Bonjour. Donc, on a dit qu'on allait parler de podcast. Alors, c'est rigolo parce que j'ai quelqu'un qui m'a posé la question il y a quelques jours de ce que c'était qu'un podcast.
Facile.
Non, mais surtout, je me suis retrouvée à faire le truc que je fais de base, qui est à dire... Alors, en 2005, je sais pas si c'est en 2005, mais il me semble que c'est à peu près à cette période-là que les premiers podcasts ont été inventés. En fait, il me semble que c'est Steve Jobs qui a inventé le mot, hein, podcast.
C'est oui, de toute façon, c'est pour aller avec l'iPod.
C'est ça. Ouais. Mais moi, parce que moi, comme je le disais dans la première ou deuxième émission, moi, j'écoutais une émission de radio locale de Los Angeles qui était disponible en MP3 sur Internet, ouais, avant le podcast qui était en fait déjà une forme de podcast. C'est-à-dire que c'était un truc fait pour une radio locale et qui ensuite était mis sous format téléchargeable en ligne. Un des premiers podcasts qui a existé, je sais parce qu'il était, derrière Steve Jobs quand il a présenté les podcasts dans iTunes, dans les 4-5 qu'il y avait, il y en avait un, qui est en fait un des premiers que j'ai moi commencé à écouter et qui a changé ma vie, qui ne parle pas du tout de série. Bien que j'ai découvert un jour qu'ils étaient tous fans de Joss Whedon.
D'accord.
C'est un podcast qui s'appelle Skepticality.
D'accord.
Et qui est en fait le podcast officiel du mouvement des sceptiques américains, qui est un mouvement intellectuel, social, qui n'a pas de précepte autre que de défendre la pensée critique et la, en gros, combattre l'obscurantisme, défendre l'éducation scientifique et ce genre de choses. Et il se trouve qu'ils sont tous fans de Joss Whedon, ce que tu découvres au fur et à mesure des podcasts et tu fais, ah, il y a pas de... Mais pas que ça, hein. Les mecs de Mythbusters sont des sceptiques et ont été dans Skepticality les auteurs de Numbers, le couple qui écrit Numbers, sont aussi des sceptiques assez célèbres dans la communauté.
D'accord.
Et aussi tous les conseillers scientifiques de toutes les séries qu'on aime, hein, que ce soit Eureka, Firefly, tous ces gens-là aussi sont la communauté des sceptiques. Et Skepticality, c'était vraiment... toutes les deux semaines, il y avait une émission et c'était une interview de 45 à 1 heure avec un sceptique qui pouvait être de n'importe quel... Parce que les sceptiques, c'est très large, donc t'avais la nana qui s'amusait à aller dans toutes les maisons où les Ghost Hunters de Sci-Fi Channel, donc il y a une émission de Sci-Fi où t'as des gens qui vont chasser les fantômes, ouais. Et donc elle allait dans les mêmes maisons et elle prenait les mêmes matériaux, elle montrait que ça voulait rien dire. Donc il y avait celle-là et il y avait aussi, enfin il y avait plein de choses très différentes. Il y avait d'une fois des plusieurs interviews avec le couple qui écrivait Numbers, ouais. Et des trucs de Penn and Teller, les magiciens, qui sont aussi des sceptiques, les mecs de Mythbusters, mais aussi une nana qui faisait de l'absinthe, par exemple, parce que il y avait toute une que toute la les trucs autour de l'absinthe et que comme quoi ça rendait aveugle et tout ça, c'était vraiment un truc, une propagande qui n'avait pas de sens. Et donc, enfin, pour la créatrice de ce podcast qui s'appelle Swoopy, que je continue à suivre sur Twitter et partout.
L'émission est arrêtée ?
Non, l'émission continue, mais c'est plus elle, c'est que son partenaire qui continue à faire l'émission. Elle n'a plus le temps.
D'accord.
Et j'ai arrêté d'écouter, du coup. Parce qu'elle était particulièrement géniale. Et j'ai appris tellement de choses, ça a tellement changé ma façon de voir le monde, de voir la culture, de réfléchir à la science. Ça m'a réconcilié avec l'astronomie, parce que... Voilà, c'est juste le fait que ce soit un podcast avec un point de vue, mais pas de limite de format, pas de limite de contenu, c'était juste on va prendre des gens qui se considèrent comme des sceptiques, qui sont des gens qui en gros appliquent la pensée critique dans leur quotidien, tout simplement, donc aussi large que ça puisse paraître être. Et surtout, c'était des longues interviews, c'est des discussions qui duraient 3/4 heure, 1 heure. Donc c'est pas de la promo, pas, non, une vraie conversation. Et ça, c'est mon premier amour de podcast aussi pour ça, parce que j'ai, tout d'un coup, j'ai compris ce que ce format pouvait offrir. Quelque chose où tu n'avais, que tu pouvais pas mettre dans une radio normale, que tu pouvais pas passer à la télévision, que tu pouvais pas faire sous d'autres formes. Et c'est pas la même chose, par exemple, sous forme écrite. Ce ne serait pas été pareil. C'était une conversation. C'était une conversation qui était partagée avec tous les gens qui voulaient bien l'entendre. Et donc voilà, Skepticality pour moi, c'est... j'ai découvert en 2008. Et en fait, c'est un des premiers podcasts officiels qui a existé. Donc d'accord. C'est drôle que... voilà.
Non, moi, ça a été un peu plus long, mon introduction au monde des podcasts, parce que, en fait, j'ai commencé à m'intéresser aux podcasts quand j'ai commencé à en faire.
Quel égocentrisme!
Parce que, comment, sur le site sur lequel je travaillais à l'époque, avec Sullivan Le Postec, Émilie Flamand et Nicolas Robert, Le Village, on avait fait un podcast qui accompagnait un petit peu nos écrits. C'était un site de critique sur la fiction européenne et francophone. Donc on avait un podcast à côté, puis je me suis dit tiens, je vais commencer à écouter des podcasts, et j'ai fait ce qu'il faut, à mon sens, finalement pas faire quand tu te mets à écouter des podcasts, c'est-à-dire tu écoutes des podcasts d'émissions de radio. Et en fait, tu te dis, oui, bon, en fait, c'est tous les trucs à côté desquels je passe à la radio, mais bon, c'est pas... Et ma première vraie obsession, qui est toujours une obsession d'ailleurs, le premier podcast où je me suis vraiment... je me suis mis à écouter, j'ai pas arrêté, c'est le Nerdist Writers Panel de Ben Becker. Et ça...
T'es bien tombé, hein, parce que c'est un truc de qualité. Moi, j'ai d'autres cadavres entre, enfin, non, des trucs que je continue à écouter d'ailleurs, mais d'autres trucs un peu moins glorieux entre temps. Mais Nerdist, donc juste pour la petite histoire, quand on s'est rencontré avec Dominique à l'occasion du Comic-Con de 2013.
C'est ça.
Où nous avons tous les deux fait on a travaillé ensemble au moment sur la réunion Buffy. Le premier truc qu'on a réalisé sur Twitter, c'est qu'on était tous les deux fans de Bette Blacker.
C'est ça.
Et que donc Nerdist, mais aussi Thrilling Adventure Hour, qui sont les deux podcasts, tu peux en quelques secondes, parce qu'on peut en parler pendant des heures, introduire ces deux podcasts qui ont changé nos vies.
Le Nerdist Writers Panel, le concept est d'une simplicité évangélique, la preuve, je l'ai copié pour faire la même chose en France. C'est Ben Blacker qui reçoit des scénaristes et qui parle d'écriture. Parle de business, il parle de méthode, et c'est vraiment fascinant, et l'avantage majeur qu'il a sur moi, c'est qu'il travaille à Los Angeles et qu'en gros, tu fais 3 mètres dans une rue, tu tombes sur un scénariste.
Tu jettes une pierre dans la salle qui tombe.
I'm curious particularly about Firefly.
The narrator goes from the creator of Buffy the Vampire Slayer, mistake number one, America doesn't know, comes a quirky new drama.
Oh, no.
The minute they say quirky, you're fucked. Yeah. And so that's what we were, I guess. We were a weird little science fiction show. And no offense, but I remember reading the CSI script and going, the Act 2 cliffhanger is a guy looking at a shoe. I'm kicking a guy through an engine.
A shoelace.
My show has a guy kicking an eye in a spaceship engine. I win. And no, you won.
Et c'est un peu plus compliqué.
Y compris surtout Javier, dont on parlait tout à l'heure,
oui,
qui est dans le gros le même clan que Amber Benson et que des autres meufs, et qui apparemment, selon Ben Blacker, on croise tous les deux jours dans des cafés différents dans Los Angeles.
Amber Benson, qui faisait partie aussi du cast élargi du Thrilling Adventure Hour, donc qui est l'autre podcast, on va dire, qui a vraiment popularisé Ben Blacker dans le monde du podcast, parce qu'en fait, avec son acolyte. C'est très rigolo. Il s'appelle Ben Hacker.
Donc vous avez bien compris, c'est Ben Blacker et Ben Hacker. Sachant que Ben Blacker est tout petit et fluet, Ben Acker est un ours,
c'est un ours,
un grizzly.
C'est vraiment un ours. Et, ils ont créé ensemble un podcast fictionnel. C'est pas une seule histoire, c'est plusieurs histoires, c'est plusieurs modules.
Et c'est un univers, en fait.
C'est un univers qui, des fois, s'entrecroise. De toute façon, il y a une tonalité commune. Le but, c'est quoi? C'est enregistrer comme s'il s'agissait d'une émission de radio des années 30.
C'est ça, une thrilling adventure hour. Donc, une heure de radio.
Une heure de radio. C'était, je dis c'était parce que ça a été arrêté il n'y a pas très longtemps, enregistré en public dans une salle de spectacle de Los Angeles qui héberge quasiment tous les gens qui font du podcasting. C'est le Largo à Los Angeles.
Et tous les comiques aussi.
Et tous les comiques.
Parce que Louis C.K. en parle. C'est ça, tout le monde en parle.
C'est une salle hyper connue. Et donc il y a plusieurs modules et à chaque soirée, c'était enregistré tous les mois, il y avait trois modules différents, Sparks Nevada, Beyond Belief.
Donc les deux plus connus étant Sparks Nevada, Marshall from Mars, qui est une espèce de western sur Mars.
C'est ça.
C'est des gros fans de Joss Whedon, faut bien le dire, et notamment de Firefly, parce qu'il y a de gens de Firefly qui...
Ah bah Ben Blacker le dit, il a deux obsessions, c'est Buffy et The West Wing. Quoi.
Et bah, donc, bienvenue. Voilà. On sent l'influence de Firefly dans Sparks Nevada et Beyond Belief, qui est l'histoire d'un couple de médiums des années 50 qui passe leur temps à picoler, qui du coup aussi toutes les deux phrases sont là, oui mon verre d'alcool, et dont la femme est Paget Brewster.
Voilà.
Et donc voilà, donc c'est effectivement c'est du haut vol du podcast. Ben Blacker, je l'ai découvert parce que Thrilling Adventure Hour et Nerdist Writers Panel ont été conseillés dans un podcast que j'écoutais déjà.
Après tu mets le doigt dans l'engrenage et
c'est rigolo parce que un des premiers podcasts qu'on a essayé de faire sur le site avec la première version qu'on a fait avec Juliette, où on parlait de Whedon, qui s'appelle Whedon et les féministes, qu'on a fait en avril, le cold open, c'est le petit bout que je mets toujours avant le début du podcast parce que j'aime bien que ça commence par des gens qui parlent. C'est moi qui demande à Juliette si elle aime les podcasts et qui lui dit techniquement j'écoute beaucoup de podcasts vu que j'en ai 300 en écoute. Maintenant, vu que j'en ai toujours 300 en écoute de retard, je me dis que j'en écoute pas beaucoup. Mais oui, il y en a énormément. Mais pour le coup, Ben Blacker, j'y suis arrivée par un de mes podcasts pour le coup préférés. Donc je peux citer. Je ne vous citerai pas les 300. Enfin, il n'y en a pas 300, hein, c'est 300 épisodes, je précise. Mais il y en a moins une quarantaine. Mais c'est Pop Culture Happy Hour, qui est le podcast fait par Linda Holmes, dont je parle tout le temps sur le site à chaque fois. Bah, une émission, je n'ai pas cité un article qu'elle avait écrit, donc je pense que voilà, si vous n'avez pas compris qui c'est, il est temps de vous y mettre.
Donc celle-là ne dérogera pas à la règle.
Voilà. Non, mais en fait, c'est intéressant parce que j'en parle parce que Skepticality, le premier podcast, c'était un podcast, c'était vraiment deux amateurs qui ont décidé de parler d'un sujet qui les intéressait. À leur façon, parce que jamais ils pourraient penser faire partie d'un truc institutionnel. Moi, j'ai commencé par là, les podcasts. Ensuite, j'ai écouté des podcasts de blogueurs de séries. Donc, j'en écoute toujours un qui s'appelle TV Time 3, où c'est vraiment des gens qui n'ont pas de crédit professionnel, on va dire. Ils ont des sites, mais pas plus. Et ils discutent chaque semaine des séries qu'ils ont regardées cette semaine. Et donc, c'est vraiment des recaps de « Ah, oh, j'ai adoré quand il a fait ça, ça, je trouve ça débile. Flash est en train de devenir nul. Ah, oh, mais si Arrow continue à faire ça, je vais piquer une crise et ce genre de trucs. » Les premiers podcasts, je les ai écoutés, c'était des podcasts amateurs de gens qui décident de s'enregistrer un peu comme nous parce qu'ils ont aucun moyen institutionnel de le faire autrement. Pop Culture Happy Hour fait partie d'une autre classe de podcasts que j'ai vraiment commencé à écouter seulement il y a 2-3 ans, qui sont ce que j'appelle les podcasts semi-institutionnels, où ce sont des podcasts au sein d'une institution médiatique. Donc, dans le cas de Pop Culture, c'est NPR, qui est National Public Radio, qui est en gros le France Inter américain. Moi, j'appelle ça comme ça parce que c'est vraiment ça. Mais Grantland, j'écoute aussi les podcasts de Grantland, qui est un site, et j'écoute un site médiatique très développé, et j'écoute aussi les podcasts de Slate.com. Et donc dans les trois cas, c'est des gens qui sont des journalistes professionnels, des auteurs professionnels, mais qui se retrouvent autour d'une conversation informelle parce que c'est pour un podcast et pas pour une émission de radio.
Tout à fait.
Et les gens de NPR d'ailleurs, en fait Linda Holmes, c'est Son rôle principal, c'est de tenir le blog pop culture de NPR. Et ses acolytes, il y en a un qui travaille pour NPR Music, il y en a un qui écrit sur les bouquins et les comics pour NPR. Et maintenant, la quatrième chaise est changeante. C'est d'autres gens qui travaillent pour NPR et qui viennent discuter.
Welcome to Pop Culture Happy Hour, our roundtable podcast about what we are watching, reading, and listening to. I'm Linda Holmes. I'm the editor of NPR's pop culture and entertainment blog, Monkey See. On this week's show, Aziz Ansari's new Netflix show, Master of None, finds him talking about show business, dating immigrant parents, and ribs versus chicken. We'll talk about how it's working and how it's different and how we like it. In our second segment, another very personal story, this time the YA novel Challenger Deep, which follows a teenage boy struggling with mental illness. We have done the reading, and now we'll do the talking. And as always, we'll close the show with what's making us happy this week, so stick around.
Grantland, pareil, c'est des gens qui sont des auteurs critiques, qui écrivent des papiers. Et c'est très intéressant de voir le décalage entre ce qu'ils font à l'écrit,
ouais,
et ce qu'ils font à l'oral, où on entre à nouveau dans un mode de conversation beaucoup plus libre, où il y a beaucoup plus de questionnements. C'est pas vraiment des chroniques. Mmh. C'est vraiment des conversations ouvertes, notamment sur Grantland, mais aussi sur Slate, où il y a... Moi, j'aime particulièrement le Political Gap Fest, donc celui où ils parlent de politique sur Slate, et on a vraiment des gens qui sont à Washington DC et qui s'y connaissent vraiment en politique, et dont l'un a été correspondant pendant 10 ans à la Maison Blanche, et qui se retrouvent tous les trois à se poser des questions sur le climat politique. Et donc, là, on arrive à ce qui me fascine dans le podcast et ce que moi, je voudrais faire. C'est vraiment, c'est pas je suis journaliste expert, donc je vous dis ce qu'il faut penser et ce qu'il faut savoir. Je partage des réflexions et des questionnements avec d'autres gens, mais qui vont aussi, du coup, provoquer nos types de réflexions et de questionnements pour les gens qui l'écoutent. Et donc, Pop Culture Happy Hour, c'est pas anodin, quoi, que ce soit mon podcast préféré, c'est parce que ça entretient ça. Et un des mecs, celui qui écrit sur les comics, est fanatique de comics, est fanatique de podcast et fanatique de Ben Blacker. Et c'est donc grâce à lui que j'étais arrivée jusqu'à Nerdist. Tout en passant avant par tous les trucs de blogueurs où il passe 2 heures à décrire une blague, des fois très très mal. Mais bon. Mais après, j'écoute aussi des vraies émissions de radio. En podcast.
D'accord.
Toi, t'en écoutes pas du tout ?
Non, j'en écoute pas du tout.
Que de la radio américaine.
Non, après non, c'est né d'une émission de radio, mais Serial, c'était un podcast depuis le départ.
J'allais dire voilà, This American Life.
Voilà, ouais. J'écoute pas This American Life. J'ai déjà trop de trucs à écouter.
Et en même temps, moi, j'ai 8 mois de retard sur This American Life, mais il y a une période où j'écoutais toutes les semaines This American Life. C'est de l'art, c'est de la fiction, c'est de très 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 haut niveau d'écriture, ouais, et c'est du journalisme d'investigation, tout à la fois, selon la semaine. C'est juste, c'est politiquement important. C'est ce qu'on peut faire avec la radio.
This American Life from Ira Glass. Each week on our program, of course, we choose a theme, bring you different stories on that theme. Today's show, Captain's Log, stories where we take the unemotional facts in logs and records of various sorts, and we look behind them at the much more emotional, complicated stories that they are so stoically documenting. We've arrived at Act 2 of our program, Act 2, Romancing the Phone. Recently, my wife and I, we were texting some things to each other that were so intense that at the end she suggested we just delete all of our texts that we had ever written to each other ever. And it wasn't like we thought that anybody else was going to see our texts. It's like we just didn't want them to exist in this world anymore. We wanted that history of our conversation to vanish forever from the face of the earth, never think about it again. You know, it's like text messages are this little history. It's like they're a logbook of our interactions with people. And of course, usually they're not so emotional. Usually they're pretty terse, which totally makes them perfect for today's program, because their terseness behind it, there can be a whole story. And recently, a sociologist started to study this. This was not very traditional sociology. The sociologist Eric Kleinenberg at NYU teamed up with a comedian, Aziz Ansari, to examine the texts that people send to each other right when they start dating. And they put out a book with their findings. It's called Modern Romance. And what they did, they spoke to a few hundred people, The research was conducted in focus groups, like 10 to 20 people in a room in 8 different cities. And then sometimes they would do a version of these focus groups on stage in front of audiences in New York and Los Angeles. What they would do is Aziz would get up and he would do a little stand-up, and then he would introduce Eric, like Eric was the next comic who was coming on stage.
Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Eric Kleinenberg.
So Eric would come up and he would talk a little bit about previous work that he'd done, and he would drop this statistic that in 1950, 23% of American adults were single.
And today, about half of all adults are single. About half of all adults are single. And I live in Manhattan, and in Manhattan, one out of every two households has just one person.
Several people in the audience go,
See, I got a Aziz.
That's like Eric's, those are like big laughs for sociologists. Where people are like, gasps. I imagine like backstage at like sociology conferences, it's just like, man, I got so many gas. Like, do you hear how many gas there were? You hear how many rumblings there were after I dropped that statistic? Those are good stats, man. Those are great stats.
Et ça, je trouve ça fascinant. Et donc, c'est pas pour rien que de là est Tissu Céréal, qui est le podcast qui, l'année dernière, a le plus fait parler de lui. Je sais même pas si on a beaucoup parlé en France.
Ah oui, oui, en France, il y a eu pas mal d'articles qui ont été balancés. Je crois même sur les Inrocks, tu avais un papier qui disait est-ce que la meilleure série à l'heure actuelle, c'est pas justement un podcast.
Qu'est-ce que tout le monde disait aux États-Unis aussi.
Voilà, et c'est, bon, après.
Et après, tout le monde était déçu par la fin, comme d'habitude, avec ce genre de trucs.
C'était impossible d'avoir une fin satisfaisante. Ou alors, c'était ceux qui s'imaginaient qu'à la fin, elle allait révéler que. Mais en fait, c'était pas ça qui était intéressant. Ce qui était intéressant, c'était son enquête et son point de vue sur la chose. Ça a toujours été une introspection sur elle-même plutôt que vraiment une enquête.
Et
sur le système judiciaire, bien sûr. Et après, moi, il y a un truc que je trouve assez fascinant dans Serial, au-delà de la voix de la présentatrice, c'est l'ambiance générale du podcast.
Mais ça, c'est This American Life.
C'est This American Life.
C'est comme ça que This American Life est produit. C'est pour ça que c'est génial à écouter.
Non, moi, le fait est que les podcasts, j'ai tendance à en écouter un, puis dans celui-là, j'entends parler d'autres choses. En l'occurrence, Nerdy Writers Panel, j'entendais Ben Blacker toujours dire qu'il écrivait pour Thrilling Adventure Hour, qu'il était le créateur. Et à chaque fois, j'entendais les gens dans le public commencer à applaudir. Au bout d'un moment, je me dis, il faut que j'écoute ce machin-là, quoi. J'ai mis un petit peu de temps à m'y mettre, et puis au bout de troisième, quatrième épisode.
Je conseille aux gens qui écoutent Thrilling Adventure d'en écouter deux, trois.
Ah, il faut en écouter plusieurs.
Et ouais. C'est compliqué, hein, parce que moi, je me rappelle que j'ai d'abord entendu parler de Thrilling Adventure Hour, et au bout de 10 minutes, j'ai fait, OK, lâche l'affaire, je vais jamais écouter ce truc-là de ma vie.
Bah oui, c'est compliqué.
Et à un moment, et quand t'essayes d'expliquer quelqu'un, pourquoi
c'est compliqué,
écouter.
Non,
ah, c'est dur.
Et le truc, moi, si je peux conseiller, c'est d'écouter Beyond Belief, parce que c'est le plus facile d'accès, en fait. Parce que Sparks Nevada, le problème, c'est que The Thrilling Adventure existait avant de devenir un podcast. C'est-à-dire qu'il y a eu, je sais pas, 4 ans,
plus,
sans que...
Au moins 6 ans, je crois. Ouais.
Où aucun podcast n'avait été enregistré. Ce qui fait que c'est pas gênant pour le Beyond Belief, parce que c'est un cas de la semaine, mais pour Sparks Nevada, ça veut dire qu'il y a 6 ans d'histoire avant, et on arrive un petit peu au milieu d'un truc, en fait. Et du coup, ça décontenance assez, et puis il faut le temps de se faire au ton, tout ça. Mais alors, quand on s'y est fait, on peut plus s'en passer.
Shall we beg today, darling?
Oh, well, whatever you fancy, my love.
I want to shoot a hippo. No, a rhino. No, an antelope. Oh, no, a cheetah. No, a jaguar. Oh, no, a zebra. No, a giraffe. Oh, no, a baboon. Oh, no, a wildebeest. No, a hyena. Oh, no, a gazelle. Oh, a water buffalo. Oh, Frank. I simply cannot choose just one.
Ça vient de s'arrêter et c'est un drame pour moi. Heureusement, il y a des palliatifs. Pendant le Nerdist Writers Panel, ils ont invité les auteurs d'un autre podcast fictionnel qui s'appelle Welcome to Night Vale, qui est une fausse émission de radio locale dans une ville où il se passe que des trucs bizarres.
Ouais, alors moi, j'ai entendu parler de Welcome to Night Vale parce que vu que j'écoute NPR pour This American Life, donc National Public, non, du coup j'ai commencé à écouter d'autres émissions de NPR, et donc j'ai commencé à écouter Wait Wait Don't Tell Me, qui est un truc de quiz news, où j'ai toujours, parce que j'ai 64 ans, donc c'est genre le jeu des 1000 francs, très drôle et très intelligent.
D'accord,
c'est compliqué d'expliquer ça, mais c'est une heure de quiz sur les news par semaine avec des invités, c'est merveilleux.
D'accord.
Et du coup j'ai écouté le nouveau quiz qu'ils avaient sur NPR qui s'appelle Ask Me Another. D'accord. Il y a un truc pour geek nerd que basé sur des jeux de mots débiles. Voilà. C'est que des quiz sur des jeux de mots débiles.
Ouais.
Et eux, ils ont reçu les créateurs de Welcome to Night Vale. Donc c'est, en fait, c'est un cercle vicieux. Tu n'en sors jamais. Plus ouais. t'écoutes des trucs de c'est radio, ça. Plus t'entends des trucs de radio, plus t'as envie.
En fait, en les écoutant en parler, je me dis, il faut impérativement que j'écoute ce truc. Et c'est pareil que Thrilling Adventure. Il faut un temps d'adaptation, ouais. en fait. Et surtout, c'est pas
moi,
des podcasts.
J'ai pas dépassé le temps d'adaptation. J'ai écouté une émission et c'est tout.
Comment dire, moi j'ai certains amis qui me disent ouais non mais moi quand j'écoute les podcasts je fais autre chose et tout ça, et oui là le problème c'est que quand on touche à Welcome to Night Vale ou Training Adventure, il faut être vraiment concentré sur ce qui se passe, pas seulement parce que c'est, là en l'occurrence on s'adresse à des français, mais certains sont bilingues heureusement, mais c'est pas notre langue maternelle, donc il faut quand même une certaine concentration, mais surtout ça raconte une histoire, il faut suivre, c'est pas juste une conversation entre deux personnes où tu peux te permettre d'un petit peu de passer à côté puis revenir, là non, il faut être vraiment concentré, et encore plus sur Welcome to Night Vale. En plus c'est assez abrupt, c'est une seule personne qui parle. Il faut se faire aussi à la voix, qui est assez fascinante et sidérante de l'acteur.
On va mettre un petit extrait pour que les gens voient ce ouais. que ça donne. Moi, je sais que j'ai beaucoup entendu parler de la... du fait qu'une des blagues récurrentes dans cette ville, c'est que... Parce qu'en fait, on est d'accord, Welcome to Night Vale, en fait, on entend le présentateur de la radio.
C'est ça, c'est la radio locale
qui raconte ce qui se passe.
Qui se passe. Genre, notamment... aujourd'hui, au conseil de la ville...
Et on apprend que... Et à chaque fois, ils ont une série de stagiaires qu'ils envoient toujours ouais. dans les endroits qui ne reviennent jamais. Et ils meurent tous, c'est ça ?
C'est ça, c'est exactement ça. C'est à chaque fois, à chaque fois que ça arrive, bien, nous aimerions exprimer notre profond recueillement aux parents et à la famille de
Berthe.
Et c'est un gars qui revient de manière récurrente, et il y a un des stagiaires qui a été envoyé dans un monde parallèle, et qui, quand elle revient, elle devient mère. Et du coup, dans un des derniers épisodes, il y a donc Cecil, le présentateur, qui décide d'envoyer un des stagiaires à un truc super dangereux, et le stagiaire dit non, parce qu'en plus, je sais que les gens ont tendance à mourir quand ils sont stagiaires chez vous. Et il fait, c'est vrai, mais l'une d'entre elles est devenue mère quand même. Donc c'est vraiment très drôle, et c'est un peu, je veux dire, c'est
moi je me dis, moi nous ça nous fait rire, mais est-ce que c'est pas un truc tellement, enfin tu vois, parce qu'il faut pas un humour très très particulier.
The sheriff's secret police have apparently taken to shouting questions at the glow cloud, trying to ascertain what exactly it wants. So far, the glow cloud has not answered. The glow cloud does not need to converse with us. It does not feel as we tiny humans feel. It has no need for thoughts or feelings of love. The glow cloud simply is. All hail the mighty glow cloud. All hail. And now, slaves of the cloud. The weather.
Je sais pas, je trouve quand même
que... ils sont populaires, hein. Moi j'arrête pas d'entendre parler.
C'est un des podcasts les plus populaires des États-Unis, et ils ont été invités dernièrement parce qu'ils viennent de sortir un bouquin chez Colbert. C'est vraiment, ils viennent de sortir un livre, c'est un podcast qui a fait, même Ben Blacker le disait en fait, le Thrilling Adventure a connu un boost supplémentaire quand ils ont fait un crossover avec Welcome to Night Vale. C'est un truc d'une popularité qui est incroyable, il y a des Tumblr de partout, il y a une communauté de fans qui est complètement à fond sur le truc, qui fait des dessins absolument magnifiques pour illustrer. Enfin, c'est vraiment, ça génère quelque chose d'extrêmement positif. Ça tient beaucoup à la personnalité des auteurs et aussi, ce qu'ils racontent à l'intérieur de.
Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a du contenu.
Il y a du contenu. Ça détourne la norme. Le personnage principal est homosexuel. Il a un amour pour un scientifique. Il a une relation amoureuse avec un scientifique. Et ce qui est formidable avec cette série-là, c'est que le truc le plus normal de la série, c'est ça. Et tout le reste autour, c'est d'une bizarrerie, d'une étrangeté incroyable. Et le truc le plus normal, c'est cette relation. Donc c'est vraiment touchant.
Ça donne envie de passer
plus de temps, mais... c'est vraiment formidable. Et des auteurs de Welcome to Night Vale, je vois passer un tweet un jour où l'un d'entre eux dit « Je viens de commencer à écouter The Black Tapes Podcast ». Et c'est un parfait mélange entre Serial et X-Files.
Et là tu te dis, oh,
Et là, bah, je vais écouter. Et Black Tapes.
On n'a pas précisé ce que c'était, Serial. Juste, c'était une enquête sur 12 épisodes, 12 podcasts. C'était en fait comme un reportage où une des anciennes de This American Life allait se pencher sur un crime qui avait eu lieu il y a quinzaine d'années.
Une dizaine d'années, ouais, c'est ça.
Pour essayer de voir si le type qui était en prison était vraiment coupable. Et en fait, on en apprend surtout sur les absurdités du système judiciaire. Je voulais juste repréciser. Donc, Black Tapes, apparemment, c'est ça, mais en version fictive.
C'est ça, en version fiction, même si les auteurs, quand ils sont en interview, sont très premier degré sur leur œuvre et ne trahissent jamais le côté réel de ce qui se passe. Ce qui est très drôle, parce que, bon, vu les sujets qui sont traités, voilà.
Des trucs surnaturels, c'est ça ?
Des trucs surnaturels et horrifiques, de manière générale. Et ça part du folklore américain. Par exemple, le premier épisode, qui est en deux parties, c'est sur le Slenderman. Le Slenderman, c'est une figure très allongée, très longue, avec des doigts extrêmement longs, une figure noire, qui apparaît sur des photos en fond. Et c'est pareil, c'est un mythe qui a été propagé, parce que sur une photo, tu voyais une forme, oh, mon Dieu, mais on dirait un Slenderman. Et ça fait une traînée de poudre. Dans le deuxième épisode, il parle du unsound. Le unsound, c'est censé être un son qui a été mis sur terre par le diable. Et si tu l'écoutes un an plus tard, tu meurs. Et ça raconte l'histoire d'un groupe de rock où le lead singer du groupe est devenu obsédé par l'unsound et l'a mis en fait dans le fond de plusieurs chansons. Et du coup, il part du principe qu'en fait, combien il y a de personnes qui ont téléchargé cette chanson ? 6 millions. Donc fondamentalement, ils sont en train d'annoncer qu'il y a 6 millions de personnes qui vont mourir dans un an parce qu'ils ont entendu sans le savoir le unsound. Enfin, c'est bourré de choses comme ça, ça fonctionne.
Oui, ça fait très X-Files, effectivement.
Et ce qui renforce le côté X-Files, c'est que tu as donc l'animatrice du podcast, qui est donc un clone de l'animatrice de Serial, qui fait donc son enquête, qui. C'est pas tant qu'elle aimerait croire, mais elle est très curieuse de ça, et donc elle creuse, elle a envie de voir du surnaturel, et elle est en paire avec un type qui s'appelle Richard Cram,
qui est un sceptique
total, et qui défonce tout en disant, non mais vous entendez ça dans l'audio, mais c'est parce que vous avez envie de l'entendre quelque part. Si vous vouliez entendre autre chose, vous entendriez autre chose, et c'est tout le temps comme ça. Et la dynamique est assez bonne, mais après c'est vrai que, enfin, quand tu entends le générique de la série, où en fait c'est une petite musique un petit peu désuète, un petit peu mystérieuse, et d'un seul coup t'entends la voix de quelqu'un au téléphone,
c'est
exactement pareil que dans Serial.
En fait, du coup, c'est rigolo parce que donc est-ce que t'as vu la série Scream cet été de
non.
MTV?
Non.
D'accord, donc spoiler pour tous les gens, est-ce que je peux te spoiler sur
la série Scream? Tu peux y aller, franchement.
Donc, spoiler sur Scream, la tueuse, il me semble que c'est la tueuse, du coup j'ai un doute, mais oui c'est ça, la tueuse, c'est la journaliste qui a son podcast sur les crimes, qui vient faire l'enquête dans la ville.
D'accord.
Et en fait, c'est assez bien trouvé parce que du coup, au début, le fait qu'elle soit là, et donc dès le début, c'est c'est machin qui fait un podcast, mais tu sais, elle fait un podcast sur les crimes,
donc,
et donc elle est venue
sérieux,
et tout. Ouais. Oh là là, c'est incroyable, elle est venue, puis tu la vois enregistrer ses émissions et ses machins et tout. Et en fait, au début, tu te dis, ouais, c'est un truc, ils l'ont mis, le personnage, il sert à rien, ils l'ont juste mis parce qu'ils avaient besoin de faire. Tu vois, ils ont essayé de faire un clin d'œil à l'actualité, quoi. Ils ont fait d'être trendy.
Ouais.
Et du coup, tu penses pas systématiquement que c'est la tueuse.
D'accord.
Vu que tu dis qu'ils ont mis son personnage là pour ça. Mais en fait, il me semble que c'est la tueuse à la fin. J'ai un doute. Ça m'a un peu. Comme d'habitude, le seul truc qui m'intéressait, c'était l'actrice Bex. J'ai oublié son nom, celle qui jouait dans. Celle qui fait Signe dans Arrow, mais surtout qui jouait dans la troisième saison de Killing.
Okay. Je vois qui c'est, je vois pas son nom.
Qui est absolument géniale dans Killing, qui jouait dans House of Lies aussi. Enfin, c'est une fille incroyable.
On va peut-être mettre ils font des petits teasers sur leurs épisodes, donc on va peut-être mettre un teaser de Black Tapes Podcast, pour comprendre l'ambiance.
On va vous faire mettre la voix de Serial et de Black Tapes, comme ça vous allez voir.
For the last year, I've spent every working day trying to figure out where a high school kid was for an hour after school one day in 1999. Or if you want to get technical about it, and apparently I do, where a high school kid was for 21 minutes after school one day in 1999.
For the last 2 months, I've been immersed in the fascinating world of paranormal investigation. Full disclosure, I love ghost stories. Even if you don't really believe in ghosts, it's fun to suspend disbelief. You dim the lights, set the mood, and tell the scariest story you can think of. And it's fun because we know it's probably not real. Ghosts don't actually exist. Do they?
Moi, je voudrais parler juste... tout à l'heure, on parlait des conversations et en fait, surtout des interviews de Skepticality. Moi, un autre truc que j'aime, donc il y a toute une série de... Il y a toute une mode de trucs de conversations. Alors, il y a une émission de radio classique que j'écoute en podcast, mais qui est Fresh Air, qui est vraiment... avec Terry Gross, qui est vraiment une figure culte. Et tu te rends compte chaque fois qu'il y a, que ce soit Tarantino, Louis C.K. ou Lena Dunham, quand ils sont en interview, ils font « Hello Terry, it's so nice to be here ». Tu te rends compte qu'il y a un truc de parler à Terry Gross sur NPR, c'est une espèce de symbole, de statut.
I want to thank you both so much, Aziz Ansari and Alan Yang. Thank you and congratulations on your new series.
Thanks very much, Terry. Thanks for having us.
Thank you.
Donc il y a elle, et dans les versions... podcastienne, on a... Enfin, aussi dans les versions radio, il y avait Alec Baldwin qui, pendant un certain temps, avait dans une radio locale, la radio de New York, faisait des interviews que j'écoutais. J'ai oublié le titre de l'émission, il n'en fait plus en ce moment. Mais j'en ai écouté un certain nombre, et notamment une avec Tom York qui était géniale, et une avec Chris Rock qui était fantastique, que je vous retrouverai. Aisha Tyler est la comique black qui jouait dans l'avant-dernière saison de Friends et qui joue dans Archer, qui fait Lana et qui fait plein d'autres trucs. Elle a un super podcast qui s'appelle Girl on Guy, où c'est des conversations d'une heure et demie, très honnêtes, très franches, très crues, avec des gens, genre celle avec Scott Foley, je me rappelle, je trouvais ça absolument génial. Elle est fabuleuse. Et le plus connu, dont tu sais, je suis une grande fan, ouais, qui est Marc Maron, avec What the Fuck, WTF, qui m'a été conseillé personnellement par Jenny Connor, la co-showrunneuse de Girls, quand elles sont venues à Paris et que je lui ai dit... Ben non, mais en fait, ils sont venus à Paris, Lena Dunham et elle, pour présenter leur saison 3. Ouais. Et je suis juste allée la remercier d'une interview qu'elle a donnée avec Andy Greenwald, qui a son podcast sur Grantland, où elle parlait de son travail et de notamment le fonctionnement collaboratif de son travail avec Judd Apatow. Et je voulais juste lui dire que ça m'avait vachement inspirée, que je trouvais ça vachement bien et que je la remerciais de cette interview, enfin de tout ce qu'elle a dit dans cette interview. Elle m'a dit, mais est-ce que tu connais WTF? Et là, elle me dit tout bas, « It means what the fuck ?» Je fais « Yeah, I know ». Et elle me dit, est-ce que tu connais ça? Parce que ça, c'est des super interviews avec des artistes. Et c'est très, enfin, si tu es intéressé par ce genre de conversation, il faudrait vraiment que tu l'écoutes. Donc, ouais. Du coup, j'ai mis un an à l'écouter. Et c'est devenu un truc que j'aime beaucoup. Alors, c'est difficile, pareil, de tout entendre. Hein, parce que tout ça, t'imagines, c'est fait une heure et demie.
Ouais, c'est très long.
Je suis à 40 podcasts comme ça, plus les 700 séries que je regarde par semaine. En fait, je suis en retard. J'essaie de sélectionner par rapport aux gens, et notamment Maron a beaucoup fait parler de lui parce qu'il a reçu Obama en mai. Sa popularité est devenue, ça fait 5 ans qu'il fait ça, et vraiment clairement c'est devenu son podcast est devenu un truc un peu culte.
Marc Maron, qui est un comédien à la base.
Oui, c'est ça. Et ouais, il y a une série d'ailleurs qui s'appelle Maron, ouais, que j'ai toujours pas regardé, mais que c'est très.
Je connais surtout pour l'avoir vu dans Louis, dans un rôle d'antagoniste. Assez...
Mais il joue son propre rôle.
C'est ça, ouais.
Et c'est un pote assez proche de Louis.
Ouais.
Et d'ailleurs, il a appelé Louis parce qu'en fait, donc Obama. Ils ont parlé avec Obama, avec les gens d'Obama pendant au moins 8 mois, 1 an. Et il est venu dans son garage, là où il fait son podcast à chaque fois, à Los Angeles. Et il y a un podcast, donc c'est l'interview avec Obama, qui est génial. Je vous conseille d'écouter parce que c'est très touchant, c'est très intéressant. Et ensuite, il a fait un podcast qui fait The President Was Here.
Oh, man. I don't know. I think I did good. It was an amazing experience. And it was one I'll never forget. And I'm glad I could share it with you. All right, I got to pull it together. I got to do some stuff. I got to feed the cats. Got to put my stuff back in the garage. Do some press. But I don't want to do anything. I want to let the experience be a good one. Not second guess everything. It was an amazing honor to talk to the president. In my garage! In my garage! Are you... fucking kidding me? Okay, folks, in a couple of minutes, you'll hear me and my producer, Brendan McDonald, talk about how the President Obama episode came to be.
Une conversation entre lui et son producteur sur tout le bordel avant et pendant, et notamment le fait que tout le quartier avait des snipers sur les toits et tout le bordel de Los Angeles qui est, où en gros dès le matin à la radio c'était merci Mark Maron, on ne peut pas rouler dans Los Angeles parce que le président est venu te voir dans ton garage. Et sachant qu'en plus ils l'ont fait voler jusqu'au à l'héliport à côté pour que ça foute moins le bordel dans la ville. C'est qu'il a fait genre il a volé de LAX à Santa Monica ou je ne sais où. Et donc soit-il que je conseille d'écouter ça, c'est super, ces deux podcasts là. Et ça, celui sur The President Was Here it raconte aussi beaucoup, parce que c'est vraiment un moment tellement important dans leur carrière pour Maron et le producteur, qu'ils parlent vraiment de leur carrière et de leur podcast et de pourquoi ils le font et de pourquoi ils le font comme ça.
Ouais.
Et à un moment justement Obama avait dit, quand il avait parlé de ce qu'il aimait bien, Obama a dit qu'il aimait bien Louis C.K. Il aimait bien Louis. Et après Maron a dit j'ai appelé Louis pour lui raconter, ça lui a fait plaisir.
En interview sur une autre conversation, il y a aussi le papa de Nerdist, Chris Hardwick, qui a une émission d'interview. C'est très relâché, c'est très détendu, c'est plus l'ambiance, c'est deux potes qui discutent. T'as l'impression qu'ils ont qu'ils sont en train de boire un verre en même temps, et du coup ça donne, bon, des fois ça donne des trucs qui n'ont pas vraiment de valeur, ou à la fin tu te dis bon ils ont discuté, et puis c'était pas forcément j'en avais entendu une avec Jason Schwartzman qui était pas non plus formidable, mais j'en ai entendu une par exemple avec Timothy Olyphant,
mais lui, où j'ai appris
plein de trucs. Il est complètement hallucinant. Déjà faut savoir que Timothy Olyphant à un moment il a essayé d'être comédien, quoi. Il était à Chicago, il a tenté d'être un comique, et il a dit ça marchait pas parce qu'en fait et là tu te dis putain gonflé le mec,
il est trop beau
en fait, quand t'as le physique que j'ai, t'es pas crédible en comique.
Et
en même temps il a pas forcément tort, hein.
Non,
ça serait,
je suis en train de me dire s'il n'y avait pas des beaux mecs qui étaient.
Et du coup, non, mais c'était vachement intéressant parce qu'il a raconté des anecdotes sur le tournage de Deadwood, expliqué que certains trucs avaient l'air préparés de longue date, en fait, c'était arrivé au dernier moment, et qu'il a parlé de du processus créatif sur Justified, dans lequel il était quand même vachement impliqué, et pas seulement parce que.
C'est un sujet passionnant aussi quand on écoute Nerdist. Hein,
c'est ça, oui, c'est que la présence de Olyphant, elle est pas négligeable, quoi. Il a pas juste collé son nom à producteur exécutif, c'est-à-dire qu'il a pris le truc au sérieux, quoi. Et aussi ça explique un peu, parce que Olyphant il a un peu une mauvaise réputation chez les journalistes, d'être un peu smug, d'être un peu désagréable, hein, et de se foutre un peu de la gueule des journalistes. En fait tu comprends un petit peu mieux pourquoi, c'est parce qu'en fait c'est pas quelque chose qu'il aime, il aime pas faire la promo des trucs, et je peux comprendre, parce que quand il explique qu'au bout de la 40e fois il y a quelqu'un qui lui demande parlez-nous de votre personnage, ou des trucs comme ça, des questions que tu poses presque quand t'as pas regardé le truc, j'imagine que tu dois en avoir marre.
C'est terrible, parce qu'en tant que journaliste, moi qui ai bossé pendant des années pour
c'est complètement ingrat pour les journalistes,
pour,
hein,
pour une chaîne de télé nationale où on faisait de la news, en fait t'as besoin d'illustrer les choses,
bien sûr,
donc t'as besoin de la personne qui dit le truc, même si toi tu le sais le truc, parce que tu peux pas le dire,
évidemment.
C'est terrible, mais au-delà de cet aparté, tu sais ce que je remarque, on a cité que des trucs américains,
ouais.
Et on les a pas tous cités.
Non.
Moi, je tiens à préciser quand même que pendant une longue période, j'ai arrêté, sauf un exemple spécifique, mais il y a une longue période où j'écoutais tous les podcasts de Télérama, il y a 5 ans à peu près. Notamment, il y a plein de podcasts musicaux, j'écoutais des podcasts cinéma, au moment de Cannes, j'écoutais les podcasts, j'écoutais Le Masque et la Plume en podcast.
Oui, moi aussi.
Et en fait, j'ai arrêté. J'écoute de temps en temps le podcast série, maintenant de Télérama, parce que c'est Pierre Langlais et que je le connais. Non, mais du coup, je sais ce qu'il fait et ça m'intéresse. Et voilà. Mais en même temps, je ne l'écoute pas toutes les semaines non plus. Mais du coup, je sais qu'il y a le podcast de Libé que je n'écoute pas assez souvent. Donc, je me pose la question, est-ce que c'est mes mauvaises habitudes ? Est-ce que c'est mes mauvaises habitudes, j'ai envie de dire, anti-françaises, de French bashing, qui fait que du coup, il y a aussi l'idée que ce qui se passe ailleurs, je n'ai pas accès du tout, et que les podcasts, c'est une façon de toucher, quoi.
J'attends d'être vraiment touché et passionné par un podcast français, non pas qu'il n'y en ait pas des bons, mais je suis peut-être juste tout simplement passé à côté.
Mais voilà. C'est vrai que en fait, c'est exactement ce que j'ai envie de dire. Ouais. J'ai envie de dire, je sais que, donc, chaque chaque podcast, on demande aux auditeurs de nous parler, ils ne nous parlent pas. Peut-être qu'il n'y en a pas des auditeurs, hein, c'est possible. Mais si vous êtes, par hasard, en train d'entendre cette phrase, et que vous connaissez un super podcast français, on n'a pas du tout de souci à assumer qu'on est débile et qu'on aurait dû les entendre.
Mais conseillez-les-nous. Je suis clairement passé à côté.
Conseillez-les-nous. Nous, ça nous intéresse. On veut les écouter. On veut savoir ce qui existe et pas juste pour faire de l'espionnage industriel. juste parce que moi, ça m'intéresserait. C'est juste que c'est vrai que. Mais je pense, franchement, hein, plus ça va, plus je me dis, on a vraiment du mal à communiquer. Il y a des trucs français qui sont bien, que ce soit dans les médias ou ailleurs, et j'ai l'impression que j'en entends jamais parler, alors que dès qu'il y a un petit truc américain pas mal, j'ai l'impression qu'il suffit que j'aille 2 heures sur Twitter et je peux glaner tous les noms de tous les trucs.
Ça vient aussi sûrement du fait, moi par exemple, je follow beaucoup de monde plutôt américain.
Moi aussi.
Donc forcément, ce genre de news-là, c'est surtout des news américaines que je vois. Finalement, il y a peu de podcasts même que j'ai écouté. Encore une fois, moi, les podcasts français que j'écoutais, c'était pas vraiment des podcasts traditionnels, réels. C'était de la redite de radio, quoi. Donc oui, j'ai écouté Le Masque et la Plume, certaines émissions de France Inter, mais j'ai beaucoup écouté ce que faisait Benoît Lagan et son comparse sur France Culture. L'Amérique en 24 épisodes, qui était une formidable série sur les séries américaines et Le Monde en 22 épisodes, pareil, mais là sur les séries du monde, t'apprenais plein de trucs, et puis au niveau de la structure, c'était hyper intelligent parce que ça passait d'un genre à l'autre, et c'était vraiment bien produit, quoi.
Ouais, c'est ça. Mais c'est moi où j'ai l'impression qu'on ne commente pas beaucoup de trucs sur Twitter. J'ai eu cette réflexion pendant Comic-Con où je me disais, je sais pas si c'est moi qui délire, mais j'ai l'impression qu'on ne retweet, on favorite, mais on ne retweet que les choses qui nous concernent personnellement.
C'est pas impossible.
Alors que moi, beaucoup de ce que je sais, de ce que j'apprends, de ce que je suis, c'est des retweets américains où les gens retweetent les choses qui les intéressent et dont ils veulent faire parler au-delà.
Ouais.
Pareil, moi, j'ai jamais écouté un podcast parce que la personne qui faisait le podcast me disait que son podcast était dispo.
Ouais.
J'ai écouté un podcast parce qu'une personne tierce personne disait...
Bien sûr.
Après, je dis pas que les gens doivent parler de notre podcast parce que bon, si ça vous plaît pas,
Non, mais par contre, on aimerait bien que vous nous parliez des podcasts français que vous écoutez, si vous les trouvez.
Dites-nous ce qui vous plaît pas dans notre podcast, et si ça vous plaît, parlez-en aux autres. Non, mais parce que moi, je suis partisane de cette idée de la transmission du partage en général.
On parle de podcasts français. On parlait de Welcome to Night Vale. Sachez, si vous n'êtes pas du tout bilingue, qu'il y a des fans français qui réenregistrent et donc qui traduisent et qui rejouent les épisodes de Welcome to Night Vale en français. Alors forcément, c'est un petit peu différent.
Où va le monde.
Je voudrais juste parler très rapidement
des tripes de scénaristes.
Ouais.
C'est le podcast pro dont on n'a pas encore parlé.
Un petit peu qui découle du Nordist Writers Panel, qui a un aspect un peu plus pointu sur l'écriture et même sur l'écriture à Los Angeles. Donc il y a certains points où, quand on est scénariste français, on se dit oui, bon, ok, faut avoir une voiture à Los Angeles.
Mais en tant qu'expert et critique série, c'est aussi intéressant parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes très spécifiques sur plein de séries
qui aident à comprendre le fonctionnement aussi d'une série américaine.
Et on comprend pourquoi certaines séries fonctionnaient d'une certaine de certaines.
C'est Children of Tendu, et on parlait de Javier Krilo Marswatch tout à l'heure.
Et José Molina
qui co-présente ce podcast donc sur l'écriture à Los Angeles, et ça brasse vraiment tout de A à Z. C'est vraiment un guide pour jeunes scénaristes américains, comment ils doivent faire, des détails qui pour nous passent au-dessus, mais en même temps qui sont intéressants dans la forme. C'est déjà, tu peux pas être scénariste si t'es pas à Los Angeles, parce qu'il faut être à Los Angeles, c'est là que tout se fait. Et puis si t'es à Los Angeles, sache que il va falloir que t'aies une voiture, parce que si t'as pas de voiture, tu peux pas faire les petits boulots au départ, et tu peux pas aller de droite à gauche, tu t'en sortiras pas. Enfin, c'est plein de je pense que Javier Marsach, on lui posait énormément de questions sur comment devenir scénariste, tout ça, et c'est vraiment le parfait guide.
Ouais.
Et ça explique tellement de choses. Ça explique aussi un truc qui est pourtant de l'extérieur complètement obscur. C'est les rôles des producteurs dans une série. Qu'est-ce que fait le supervising producer? Qu'est-ce que fait l'executive producer? quelle est la place des gens dans la hiérarchie d'une writer's room, c'est fascinant. Et en plus, c'est présenté de manière totalement ludique et drôle, parce que les deux sont vraiment deux mecs à mourir de rire.
Et, donc, et on apprend énormément de choses. Depuis les débuts de leur carrière. Et
c'est
donc, ça s'appelle Children of Tendu, à cause d'une mauvaise compréhension d'une phrase, d'une chanson des années 90, où il dit « children often do ». Donc les enfants le font souvent. On verra si on peut passer l'extrait de la chanson pour que vous compreniez.
Je crois que c'est une chanson des années 70, et Rosé Méline.
C'est un truc indie des années 90 que moi j'écoutais parce que j'avais une copine américaine.
Je te fais confiance.
Je vous le passerai. Je te fais confiance. Dans l'émission.
Je me dédouane
children
totalement de ma copine.
Often do. Pardon. Pour dire qu'il y a aussi Script Notes, qui pour le coup est vraiment pour le cinéma,
ouais,
où c'est aussi un podcast qui parle d'écriture. Et là, ce que je trouve le plus frappant, et c'est, on revient à cette idée de partage, de conversation, de questionnement, c'est qu'on est vraiment sur un truc, sur le mentorat. Donc c'est pas
tout à fait, la transmission,
À l'américaine, et où notamment ils en parlent dans Script Notes beaucoup, de en tant que scénariste professionnel établi, c'est important que quand un petit jeune leur dit est-ce que vous voulez bien lire mon scénario, est-ce que vous voulez bien me parler, que c'est important de le faire. Ce qui me semble un truc complètement inimaginable chez nous, ou en tout cas pas encore tout à fait aussi imaginable que...
Pourtant, aux États-Unis, c'est aussi concurrentiel qu'ici, mais il y a une idée, mais c'est peut-être aussi de la manière dont ils travaillent, le fait qu'ils travaillent énormément en groupe. On se dit que si t'aides quelqu'un au début de sa carrière, peut-être que 10 ans plus tard, c'est lui qui t'aidera à un autre moment.
Oui, il y a l'idée de l'exploitation des compétences,
tout à fait,
la peur des compétences.
Ouais. Ce qui est très rafraîchissant.
Je fais du French bashing, mais ce qui est quand même un défaut qu'on a tous un peu ici. Et donc du coup c'est très intéressant d'entendre ces podcasts-là, parce que ça donne cette idée-là. Et je veux en revenir à la question finale dont je voulais parler avec toi là-dessus, c'est qu'est-ce qui te... Donc toi, t'as commencé à faire des podcasts avant d'en entendre. Moi, j'en ai écouté des tonnes avant d'avoir envie d'en faire, mais en même temps je pense qu'aujourd'hui, en faisant, décidant de faire ce podcast ensemble, on est sur un truc un peu plus réfléchi de pourquoi on peut faire ça. Et c'est vrai que moi, je reviens à cette transmission. Et pour moi, la transmission, elle va dans les deux sens. Pour l'instant, c'est nous qui parlons. Un jour, on aura des gens qui vont nous écrire. Un jour, ça viendra, on aura un commentaire. Et je pense que le podcast, parce que c'est informel... En fait, c'est rigolo parce qu'à quel point le format et le mode de distribution influent sur le contenu. Et parce que c'est informel, parce que c'est en ligne, parce qu'il n'y a pas de limite, parce qu'il n'y a pas de censeur, parce qu'on fait ce qu'on veut, il y a quelque chose qui me semble très libre dans l'échange d'idées, et aussi surtout, finalement, les limites qui vont à un moment se poser, ça va venir du feedback qu'on va avoir à un moment ou à un autre. C'est-à-dire ce que les gens vont penser de ce qu'on fait, de ce qui ça leur apporte, ça leur apporte pas, et que du coup il y a une espèce de relation organique entre le produit qu'on fait et les gens qui le consomment, et que ça, je trouve que c'est excitant en fait. Ça c'est un truc qui m'intéresse plus que de faire une fois de plus ma petite chronique toute propre dans mon...
C'est ça. Mais en fait, moi, plus j'y réfléchis, plus je me dis qu'en fait, mon rapport au podcast, au fait de faire du podcast, c'est toujours été à la base une dimension humaine. Au début, les podcasts du village, faut savoir que on écrivait plus ou moins chacun dans notre coin et on mettait les articles en ligne, et ça aurait pu rester comme ça, un truc où, oui, on se croisait de temps en temps, mais globalement, le gros du travail, on le faisait chacun de notre côté. Ça nous permettait de nous croiser, de nous voir, de créer une discussion les uns avec les autres. Et du coup, c'était une encore aujourd'hui de l'expérience du village, je me souviens surtout de ces moments-là. Et pourtant, le podcast, on l'a commencé sur le tard, et puis on n'en a pas fait non plus une quarantaine, quoi. Mais je me souviens de ces moments-là parce que c'était un moment de partage. Quand j'en ai fait sur le Daily Mars, c'était toujours des podcasts qui avaient lieu pendant des festivals, et c'était un moyen de se retrouver en fin de journée, mm-hmm. de discuter de la journée. J'ai eu le plaisir d'avoir plein de gens hyper intéressants, hyper drôles et mm-hmm. attachants dans ces podcasts-là. Donc, je vais pas tous les citer, mais je leur fais un gros clin d'œil. Et ça a toujours été une démarche, en fait, juste de rapport humain, parce que ça donnait un petit peu une obligation d'en discuter en fin de journée. Et c'était toujours quelque chose d'agréable, même si on était crevé et fatigué. Mais c'est ça. Et ça continue aujourd'hui. Voilà, comment dire, parler d'écriture, c'est quelque chose que j'adore faire. Et plutôt que de dire dialogue d'auteur, c'est ça. C'est au lieu d'appeler deux, trois scénaristes que je connais bien et de dire tiens, on va boire un verre, on va parler d'écriture, bah, je vais aller voir des scénaristes que je connais pas. Et puis on va faire ça de manière un tout petit peu plus formelle, même si ça reste informel.
Et nous, on le propose et on l'offre à d'autres.
C'est ça. Il y a d'autres gens qui peuvent en profiter s'ils trouvent leur intérêt dedans. Et puis bah, ce podcast-là, c'est pareil. C'est parler de façon informelle des choses qu'on aime et qu'on a envie de partager. Donc ouais, au fond, c'est ça. C'est ça mon rapport au podcast.
On va vous mettre une grande liste de tous les podcasts qu'on aime et qu'on vous conseille d'écouter et d'entendre. Ouais. Donc deux de mes podcasts préférés viennent de se terminer, c'est terrible. Et deux podcasts principaux de Grantland que j'écoutais viennent de se terminer parce que...
Moi j'en ai un autre aussi qui vient de s'arrêter, Fire Hollow et Iceberg, deux critiques séries, Alan Sepinwall et Daniel Feinberg, je ne sais pas, peut-être.
Je crois que c'est parti, c'est juste parce que maintenant nous, on a un podcast.
L'univers nous laisse la place, c'est ça. Bon, par contre, je ne suis pas sûr qu'on touche le même public, hein. C'est un peu le problème.
Bah, on verra, on va finir par le faire en anglais, ce podcast.
Ça ne te posera pas de problème, toi, en plus.
En tout cas, on espère que vous écoutez aussi plein de podcasts et dites-nous ce que vous en pensez de tous ces trucs-là qu'on écoute et de tous ceux qu'on n'a pas encore écoutés, surtout. Merci à tous d'avoir écouté notre conversation. Comme vous avez dû le remarquer, nous avons fait un peu de post-production et nous avons ajouté quelques extraits pour vous donner une idée des émissions dont on vous parlait. Vous pourrez trouver tous les liens vers ces podcasts et bien d'autres sur le post consacré à ce pod sur notre site à cannotsitstill.com. On voudrait aussi que vous n'hésitiez pas à partager avec nous vos listes de podcasts préférés et à nous dire ce que vous pensez de nos chouchous à nous, tant qu'à faire. En attendant, nous tenons à remercier Juliette pour son soutien indispensable de productrice et de webmaster et à A Virtual Friend, dont la chanson Paris la nuit nous sert de générique. Nous remercions aussi le Daily Mars de parler de nous sur leur site et dans leurs tweets. Et comme nous sommes toujours friands de vos opinions, idées, anecdotes et autres, on voudrait que vous ne manquiez pas de nous parler sur Twitter. Pour Dominique, c'est @itsthedom, donc ça s'écrit I-T-S-Z-E-D-O-M. Et moi, c'est @ylka, Y-A-E-L-K-A. Voilà, à très vite et bonne série d'ici là.
Quand j'écoutais des podcasts au bureau, j'avais des collègues des fois qui me disaient « Mais qu'est-ce que t'écoutes ? T'écoutes de la musique tout le temps ?» Je fais « Non, j'écoute des podcasts. » Et « T'écoutes toi ? T'écoutes quoi ?» Je dis « Bah, c'est un podcast américain, tout ça. » Et il y a quand même quelqu'un une fois qui m'a dit « Mais punaise, t'écoutes des podcasts anglais, il n'y a pas de sous-titres ?»
Je bossais dans un bureau en Allemagne où on faisait rentrer des commandes de fournitures dans une base de données, un truc passionnant. Et il y a une nana, et en fait, il y a une nana qui a imprimé par erreur un truc sur 400 pages. Et donc, du coup, elle a remis les pages dans l'imprimante de l'autre côté, tu vois, pour pouvoir réaliser le papier. Et en fait, on ne faisait aucun courrier officiel, on ne faisait qu'envoyer des fax quand on avait un contact avec le client. Et on avait on centralisait la photocopieuse, on avait l'unique imprimante. Et du coup, un jour, une des nanas les plus débiles du bureau a imprimé un fax qu'elle devait envoyer à un client. Et elle trouve le fax et elle dit oh « Mais regarde de l'autre côté, il y a quelque chose !» Et je lui dis « Ouais, mais c'est pas grave. » Elle fait « Mais le client, qu'est-ce qu'il va te dire ?» Je dis « Mais si tu le faxes, tu faxes que l'autre côté. » Et là, elle me dit « Bah, je sais pas, j'espère. » Et là, j'ai fait « Mais quand on voit un fax, ça envoie pas un fax plus une page blanche. » Et là, on me dit, je raconte à une collègue qui me fait « Ah ouais, mais elle, quand elle a changé de bureau, elle a voulu emmener son téléphone pour garder le même numéro. »
Alors ok, puisqu'on en est à ça, moi j'ai une collègue qui a des problèmes d'ordinateur. Je lui dis « Bah écoute, va dans une autre pièce, utilise un autre poste et vois s'il va plus vite. » Et elle me dit « Ouais, mais bon, j'ai tous mes raccourcis sur mon bureau. Bah remarque, je peux prendre mon écran. »
Déjà raconté,
oui.